Et à 8h, le journal de Sébastien Legénie. Bonjour Sébastien.
Bonjour à tous. À la une ce matin, le coût de la reconstruction sur l'île de Saint-Martin qui s'envole. Un mois après le passage de l'ouragan Irma, les autorités locales estiment les dégâts à 3,5 milliards d'euros, une information France Inter. Nicolas Sarkozy à nouveau dans le viseur des juges. Le parquet financier requiert son renvoi devant les tribunaux dans l'affaire dite des écoutes. Au programme également, les divisions qui gagnent le camp des indépendantistes catalans. Les commerçants en Andorre qui se frottent les mains à l'idée de voir le paquet de cigarettes français passer à 10 euros. Une émouvante exposition de jeunes photographes syriens et puis du sport à venir dans 10 minutes avec bien sûr du football et le match piège Bulgarie-France en éliminatoire des Mondiaux 2018. Et l'on commence par cette information France Inter. Donc, l'ouragan Irma pourrait finalement coûter beaucoup plus cher que prévu à la France. 3 fois plus cher que ce que les services de l'État avaient anticipé. L'île de Saint-Martin aurait besoin finalement pour se reconstruire de 3,5 milliards d'euros. C'est le chiffrage, en tout cas estimé par les autorités locales de l'île et notamment par Daniel Gips, le président du conseil territorial de Saint-Martin. Les précisions de Thibault Lefebvre.
Une évaluation réalisée en une dizaine de jours et qui prend en compte tous les dommages qui ont touché Saint-Martin et notamment l'ensemble des dégâts sur des biens qui ne bénéficient pas de la garantie catastrophe naturelle, des véhicules assurés au tiers, des bateaux ou encore des marchandises transportées. Une somme presque 3 fois supérieure aux premières estimations de la Caisse centrale de réassurance, propriété de l'État et spécialisée dans les catastrophes naturelles. Et c'est là que se trouve le principal enjeu de ce que Daniel Gips appelle une négociation. Le chèque doit-il prendre en compte l'ensemble des destructions ou simplement les biens assurés? À Saint-Martin, 50 à 60% des biens ne sont pas couverts par une police d'assurance, c'est seulement 2% en métropole. Daniel Gips demande à Emmanuel Macron de respecter ses engagements pris quelques jours après le passage d'Irma, à savoir sortir du droit commun et bousculer les procédures. Vœux pieux ou réelle directive adaptée à la catastrophe que vit Saint-Martin? Réponse en milieu de semaine prochaine à l'issue d'une réunion interministérielle. À Saint-Martin, Thibault Lefebvre, France Inter.
La tempête Nate qui fait route vers les États-Unis s'est transformée ce matin à l'aube en ouragan alors qu'elle longeait la côte caribéenne du Mexique. La tempête a déjà fait 25 morts en Amérique centrale.
Et l'autre titre de cette matinée, c'est l'avenir judiciaire de Nicolas Sarkozy. Avenir de plus en plus chargé.
Déjà renvoyé devant les tribunaux dans l'affaire du financement de sa campagne électorale de 2012, l'ancien président est cette fois-ci rattrapé par son alias Paul Bismuth et menacé d'un autre procès, le parquet financier. A en effet requis son renvoi en correctionnel dans l'affaire dite des écoutes où Nicolas Sarkozy est aujourd'hui poursuivi pour corruption et trafic d'influence. Des écoutes lors desquelles l'ancien chef de l'État aurait envisagé de favoriser l'avancement d'un haut magistrat en échange d'informations confidentielles sur les affaires le concernant. Le rappel des faits avec Stéphane Fer.
L'affaire des écoutes, c'est avec Big Magnon, autre procès à venir, l'un des plus gros cailloux dans la chaussure de l'ancien chef de l'État sur le front judiciaire. Au cœur du dossier, les écoutes téléphoniques pratiquées sur sa fameuse ligne ouverte sous le pseudonyme Paul Bismuth, un portable fantôme utilisé pour communiquer discrètement avec son avocat et ami Thierry Herzog, lui aussi renvoyé dans cette affaire. Écoute téléphonique à l'appui, la justice soupçonne Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog d'avoir tenté d'obtenir des informations sensibles sur des dossiers menaçant l'ancien chef de l'État comme l'affaire Bettencourt, et cela de la part d'un magistrat à la Cour de cassation, Gilbert Azibert, à qui Nicolas Sarkozy aurait promis un poste de prestige à Monaco. Perquisition, garde à vue dans cette affaire, Nicolas Sarkozy n'a pas été épargné et a rendu coup pour coup en tentant, grâce à ses avocats, de torpiller la procédure. La révélation dans les médias aujourd'hui, avant même que les réquisitions ne soient notifiées aux parties, pourrait bien donner de nouveaux arguments à la défense de Nicolas Sarkozy pour tenter coûte que coûte d'éviter le procès.
Le dossier est désormais entre les mains des juges d'instruction qui sont les seuls habilités à renvoyer ou pas Nicolas Sarkozy devant un tribunal. Une semaine après la découverte des bonbonnes de gaz dans l'entrée d'un immeuble du 16e arrondissement, on ne sait toujours pas quelle était la cible de cet attentat raté. Les 3 suspects restent silencieux et ils devraient être mis en examen dans les prochaines heures. Autre attentat raté déjoué en 2016 à New York, on ne l'a appris que cette nuit. Des djihadistes envisageaient de faire à l'époque un massacre à l'arme à feu dans le métro métro de New York et à Times Square sur le modèle des attentats de Paris. C'est un agent infiltré du FBI qui a fait échouer le projet. Aux États-Unis, toujours une nouvelle controverse à venir pour Donald Trump. Jusqu'ici, la loi Obamacare obligeait les entreprises à prendre en charge les frais de contraception de leurs employés. Une disposition annulée hier par l'administration Trump. Plus de 60 millions de femmes sont concernées.
Il est 8h05, la suite de votre journal. Sébastien Legénie, en Espagne, l'Espagne appelait aujourd'hui à descendre dans la rue.
Oui, avec deux défilés attendus. D'un côté, les Espagnols partisans du dialogue entre Madrid et Barcelone qui appellent à sortir vêtus de blanc en signe de trêve. De l'autre, les unionistes qui se mobilisent pour une marche dite patriotique. Les indépendantistes s'apprêtent à manifester aussi encore demain. En attendant, les autorités catalanes ont tenté hier d'envoyer quelques signes d'apaisement. Le président catalan notamment a reporté de 24 heures son intervention devant le Parlement qui pourrait annoncer l'indépendance de la Catalogne la semaine prochaine. Il faut dire que les divisions au sein même des indépendantistes sont de plus en plus saillantes. À Madrid, Mathieu Taillac.
Dans le camp indépendantiste cohabitent des partis et même des sensibilités très diverses, de l'extrême gauche anticapitaliste de la Coupe au centre droit libéral et pro-business du PD4, en passant par le centre gauche pour ERC. Les idéologies influent aussi sur la stratégie à suivre après le référendum. L'idée initiale était que la majorité séparatiste déclare l'indépendance au Parlement catalan 48 heures après la publication officielle des résultats. La publication est effective depuis hier soir, mais parmi les plus modérés au PD4, par exemple, on appelle au calme. La secrétaire générale de ce parti, auquel appartient le président catalan, Carles Puigdemont, a indiqué que la précipitation pourrait briser le rêve indépendantiste. Le ministre régional aux entreprises, bien placé pour connaître les tensions dans le secteur, a proposé, je cite, « une trêve entre Madrid et Barcelone, au cours de laquelle personne ne prendrait de mesures unilatérales ». Des appels que ne veulent pas entendre les plus déterminés. La Coupe, par exemple, le parti d'extrême gauche, n'entend pas négocier le vote d'une déclaration d'indépendance mardi prochain. Madrid, Mathieu de Taillac.
En bref, en économie, on vous parlait ces derniers jours de cette nouvelle polémique concernant l'augmentation de la CSG pour les résidents des maisons de retraite, une augmentation non compensée par la disparition de la taxe d'habitation. Et bien, selon le Figaro, un amendement pourrait en conséquence proposer de baisser les tarifs des maisons de retraite publiques et parapubliques. Il est une autre augmentation qui fait beaucoup parler d'elle, la future hausse du paquet de cigarettes à 10 euros, un prix qui risque de pénaliser les buralistes français, mais qui devrait faire l'affaire de leurs voisins dans la principauté d'Andorre, où le paquet sera moitié moins cher. Les douanes redoutent déjà une explosion des trafics. Leur portage à la frontière du Pas-de-la-Case avec Sébastien Berriot.
Bonjour, qu'est-ce que vous déclarez à la douane, s'il vous plaît ?
6 cartouches.
Garez-vous là, je vais faire le contrôle. Là, il y a au moins 2 cartouches en trop.
Des contrôles de ce genre à la frontière avec l'Andorre, les douaniers français en font des centaines chaque jour. Le poste est traversé quotidiennement par 3500 véhicules, près de 6000 l'été. Une majorité de Français qui viennent acheter des cigarettes. Avec le paquet bientôt à 10 euros, la longue file de voitures devrait encore s'allonger. Les commerçants du Pas-de-la-Case se réjouissent déjà. Jean-Jacques Carrier est leur représentant.
C'est bien pour nous, plus il y aura de différences de prix, plus on aura logiquement de clients qui vont venir passer la journée au Pas-de-la-Case, voire plusieurs jours.
Et effectivement, les fumeurs français prévoient déjà de venir plus souvent en Andorre.
Je suis contre l'augmentation du tabac et l'Andorre est une solution, bien entendu.
On viendra plus souvent, c'est presque à moitié prix, donc il n'y a pas photo. Voilà.
Les douaniers, eux, s'attendent à une forte hausse des trafics. Frédéric Catoen, responsable des douanes pour la Cerdagne.
Il y a des bandes organisées qui sont implantées sur Toulouse et à la fois Perpignan, on peut s'attendre à une augmentation de la contrebande. Il y a un tel différentiel, il y a tellement d'argent en jeu, on s'adaptera à l'évolution.
La limite autorisée, elle ne bougera pas, ce sera toujours une cartouche et demie par personne. En Andorre, Sébastien Berriot, France Bleu Roussillon pour France Inter.
On termine, Sébastien, avec cette bouleversante exposition de photographie à Bayeux. C'est donc à l'occasion du prix des reporters de guerre.
Il faut découvrir le travail poignant de ces jeunes photographes syriens devenus témoins du conflit par la force des choses, de jeunes photographes amateurs que l'AFP, l'agence France Presse, a eu l'idée de recruter dès le début de la guerre. À Bayeux, le reportage d'Alexandra Hakoun.
Une quarantaine de photos, des clichés parfois très durs, pris par des témoins pas comme les autres. Des gamins syriens que l'AFP repère dès 2012 sur les réseaux sociaux et YouTube. Rana Moussaoui est directrice adjointe du bureau de l'AFP à Beyrouth.
C'était un travail assez unique parce qu'on a formé
des gens qui ne rêvaient même pas d'être ni journaliste, ni même photographe. Et ils se sont retrouvés propulsés sur le terrain, quoi. Du coup, ils ressentent ça dans leur âme. Eux, c'est vraiment leur ville, leur pays.
Karam Al-Masri a 26 ans. Lui, par exemple, était étudiant en droit. Son histoire vous déchire les tripes. Kidnappé par Daesh en 2013, il revient dans sa ville, Alep, après 45 jours. Découvre que ses parents ont été tués. Il a faim, il a peur. Côté rebelle, pas de photographe pour raconter le chaos. Alors Karam s'y met avec son téléphone portable. Aujourd'hui, il est fier de pouvoir présenter son travail à Bayeux.
Cette photo-là, c'est ma préférée. Je l'ai prise dans le quartier où j'habitais. L'idée, c'était de toucher les gens et de leur montrer ce qui se passait. Je suis triste, bien sûr, mais j'espère qu'avec mes photos, les choses vont changer.
Réfugié en France, Karam vit en ce moment à la maison des journalistes à Paris. Son rêve, continuer à être journaliste et pouvoir, un jour, rentrer chez lui. Bayeux, Alexandra Akoun, France Inter.
L'exposition de ces jeunes photographes syriens, c'est donc à Bayeux dans le Calvados jusqu'à ce soir.
C'était le journal de Sébastien Logénie.